Nous ouvrirons la parole de Dieu dans Romains 6, les versets 3 à 6. Romains 6, 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du Christ soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen.
Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, et à Marie en particulier, qui nous fait la joie d'une cérémonie de baptême ce matin. On pourrait aborder le thème du baptême sous bien des angles, mais il en est un qui prime et s'impose, qui, de plus est, correspond à un souhait chez Marie, un souhait de l'aborder ce matin, c'est celui de l'amour. L'amour, toujours l'amour. On en revient toujours à cela. Je serais tenté de dire que l'amour est le moteur de la vie humaine et de la vie tout court. L'amour de l'argent, l'amour des femmes ou des hommes, l'amour de sa femme ou de son homme, l'amour du sport, des arts, de son métier, de sa famille. En effet, tout ce qui nous fait courir est normalement porté par l'amour de quelque chose, de quelqu'un. L'amour moteur de la vie humaine. Remarquez que ce moteur trouve aussi sa place dans le domaine de la spiritualité ou de la foi. On parlera alors d'amour de Dieu, d'amour du Christ, d'amour de l'Église, d'amour des Écritures, d'amour des âmes. Oui, l'amour est aussi, semble-t-il, le moteur de notre spiritualité, de notre foi. Aussi, nous pouvons souscrire avec saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». La question que nous devons plutôt nous poser est celle de ce que nous aimons. Pourquoi nous l'aimons? Quel est finalement le moteur de notre amour, le moteur de notre moteur de vie? C'est une question intéressante. Est-ce que nous aimons toutes les catégories d'amour que je viens de lister ou bien nous n'en aimons que quelques-unes? Et si oui, pourquoi? Pourquoi j'aime ceci et pas cela? Pourquoi l'argent et pas Dieu ou bien l'inverse? Pourquoi les femmes, les hommes et pas ma femme, mon homme ou bien l'inverse? Pourquoi le sport et pas l'art? Pourquoi? Pourquoi nous aimons ce que nous aimons? Les réponses sont nombreuses. Et en même temps, elles peuvent se résumer en une seule. Voyons cela d'abord sous l'angle de la multiplicité. une réponse historique ou existentielle. Parce que nous avons une histoire singulière, chacun un parcours de vie unique qui nous invite à rencontrer des gens, pouvoir bénéficier d'une certaine éducation, aller dans certaines écoles, voire universités, avoir un métier, et toutes ces activités qui créent autant d'interrelations, toutes ces personnes que nous rencontrons vont laisser une trace presque indélébile en chacun de nous, qui, traces, vont provoquer des affections, des orientations affectives. Et voilà comment un moteur d'amour va pouvoir s'orienter, se dessiner dans notre existence, la réponse existentielle, historique. Mais il y a aussi une réponse génétique. Lorsque nous venons au monde, nous ne venons pas au monde par hasard. Nous sommes le fruit de papa et maman. Et ils transmettent non seulement leur amour, mais aussi leur gène, du moins une partie. Et nous allons ainsi hériter de cela un certain nombre d'éléments qui vont déterminer aussi des orientations que je me permets de rappeler affectives. Nous dessinons aussi par la voie génétique un moteur d'amour. Pourquoi ceci et pas cela? On pourrait aussi parler de la réponse sociale. Beaucoup courent après l'argent, beaucoup aiment l'argent. Pourquoi? Parce que les pièces de monnaie, parce que ce qu'est véritablement l'argent, non, parce que l'argent est aujourd'hui incontournable. Comment se débrouiller dans une société de consommation telle qu'elle se développe et dans laquelle nous vivons si nous ne courons pas de près ou de loin après l'argent? Et voilà comment la société peut aussi imposer un moteur, un amour, celui-là en tout cas. Et il y aurait ainsi possibilité de multiplier les réponses qui expliquent pourquoi nous aimons ceci et pas cela. Mais chacune de ces réponses se résume in fine en celle-là. Notre nature. C'est finalement notre nature profonde, notre moi profond, qui détermine nos affections. Et c'est là, me semble-t-il, que le thème de l'amour bascule dans ou abouche vers celui du baptême. Car en effet, que nous dit la parole de Dieu eu égard à la nature humaine? Eh bien, qu'elle est corrompue. L'apôtre Paul a une expression significative. Il utilise dans l'épître aux Romains, d'ailleurs, les mots grecs suivants, la sarx amarsia, ou tia, une chair de péché. Notre nature est comparable, chez Paul, à une chair de péché. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Quel type d'amour une chair de péché peut-elle donc engendrer? Et quand bien même toutes les réponses que nous pourrions apporter à ce que nous aimons se résument en celle-là, la nature de l'homme, si celle-ci est corrompue, se pose la question de la qualité de l'amour dont nous sommes capables. Et d'ailleurs, remarquez que rien ne dure dans cette humanité. Même les amours les plus beaux, même les plus beaux sentiments, même les passions les plus fougueuses, les plus ardentes, ne résistent pas à l'érosion du temps. Parce que la nature humaine est corrompue et qu'elle ne peut rien produire de définitif. D'ailleurs, l'homme un jour naît et un jour meurt, il en est ainsi de tout ce qu'il expérimente et de l'amour dont il est capable de produire, quelle que soit sa forme, que cet amour soit bien orienté ou mal orienté. Mais le baptême a quelque chose à nous dire face à ce problème. En effet, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est à travers le rite qu'il constitue, l'immersion, le geste qui l'accompagne, l'immersion. C'est d'abord un aveu. Et peut-être celui-là, que nous sommes bien incapables d'aimer comme il le faudrait. Que si nous sommes livrés à notre propre humanité, à notre seule humanité, nous sommes incapables d'aimer. D'aimer comme il le faudrait, c'est-à-dire comme Dieu le voudrait. Et le baptême, c'est cet aveu. Et remarquez que tout commence par là. Lorsque nous sommes capables dans notre vie d'avouer, de confesser nos limites, nos impossibilités, alors et seulement alors nous nous donnons la chance, la possibilité de pouvoir les dépasser. Le baptême, c'est ce moment où nous avouons cette incapacité d'aimer qui s'est imposée à nous au jour même où Adam et Ève ont malheureusement fait le choix de l'autonomie plutôt que celui de la relation à Dieu. Car en effet, si nous sommes incapables d'aimer, c'est parce que depuis ce choix malheureux qui nous concerne tous, encore aujourd'hui, ici, nous sommes coupés, séparés de la seule source d'amour définitive, parfaite, absolue, éternelle, Dieu. Eh bien, lorsque nous avouons, en passant par le baptême, que nous sommes incapables d'aimer, nous commençons à dire que nous reconnaissons un problème chez nous et que nous émettons le souhait de pouvoir le contourner en nous reliant à celui qui est l'origine de l'amour puisqu'il est lui-même l'amour, Dieu. Et je pense à Jean, Dieu est amour. Le baptême, c'est donc cet aveu d'incapacité, mais un aveu d'incapacité salvateur, nécessaire, indispensable, une sorte de starting block qui nous permet d'avancer dans la bonne direction, à savoir celle de l'amour vrai, car de l'amour selon le cœur de Dieu, placé dans le cœur des hommes. Le baptême, c'est aussi, en plus d'un aveu, une transformation. Lorsque Marie, vous allez passer par ces eaux baptismales, vous allez nous dire que vous avez changé et que vous voulez changer encore. Déjà en prolongation de l'aveu que nous venons de laisser, si j'avoue ne pas pouvoir aimer et que je suggère à travers cet aveu le désir de changer, j'exprime une volonté, celle de vouloir trouver le moyen qui me permettra enfin d'aimer comme j'en ressens le besoin. Et encore une fois, toute réalisation humaine passe par l'exercice de la volonté. Celui qui ne veut pas ne peut rien. Celui qui fume et ne veut pas arrêter de fumer fumera toute sa vie. C'est une loi. Sans volonté, pas d'effet. Mais remarquez que la transformation n'est pas que volontaire ou intellectuelle. Elle ne se situe pas que dans l'intention. Elle est aussi spirituelle. Car ce que nous allons faire dans un instant n'est pas qu'un geste, n'est pas qu'un rite. Il est aussi le corollaire à une expérience spirituelle forte. De quoi parlons-nous ? De la naissance de l'esprit, de la nouvelle vie. Je pourrais lire ce texte du Nouveau Testament qui reprend une conversation entre Jésus et Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand on passe par les eaux du baptême, on naît de nouveau. On reçoit de façon plus importante, ou peut-être pour la première fois, l'Esprit Saint en soi. Rendez-vous compte ? La troisième personne de la divinité qui vient se loger, se lotir, investir le cœur humain. Pourquoi ? Eh bien, pour lui redonner cette capacité d'aimer perdue. Car ne l'oublions pas, nous l'avons déjà dit, Dieu est amour. Et lorsque la troisième personne de la divinité gagne le cœur de l'homme, que lui donne-t-elle en priorité, essentiellement, l'amour, le pouvoir d'aimer. Aimer comme il le faut cette fois. Aimer les siens. Aimer ceux qui nous entourent. Aimer les frères et sœurs dans l'Église. Aimer avec un grand A. Et si nous devions définir cet amour, nous pourrions parler d'altruisme, de don de soi. Mais nous ne le ferons pas, car la définition serait illimitée. Vous savez, la Bible a plusieurs mots pour nous parler d'amour. Elle parle d'amour éros lorsqu'elle veut indiquer l'amour sentimental. Elle parle d'amour philéo quand elle veut indiquer l'amour entre les êtres. Comprenons l'amour parental, l'amour filial, l'amitié, etc. Mais il y a une qualité d'amour supérieure, du moins différente, l'amour agapé, un amour total, un amour absolu. Paul, encore une fois, nous en parle dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13. Eh bien, c'est cet amour-là que le Saint-Esprit place dans notre cœur, placera dans votre cœur, Marie, quand vous serez passée par ces eaux baptismales. Et enfin, car il nous faut terminer, l'amour que Dieu place dans nos cœurs à travers la présence même de sa personne, de son esprit, ne nous donne en but ultime que la possibilité de vouloir véritablement le rejoindre, le retrouver. L'amour de Dieu, nous dirons. Lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous donnons à Dieu, à travers tout ce que nous avons déjà dit, la possibilité de l'aimer à lui. Et lorsque nous parlons d'amour, eh bien nous parlons de rendez-vous. Pourriez-vous me dire, pourriez-vous me citer un amour qui n'est pas vécu? Un amour qui ne se matérialise pas par la rencontre des deux êtres qui s'aiment, cela n'existe pas. L'amour n'est pas qu'une théorie, il faut qu'il y ait aussi une pratique, une rencontre. Et cette rencontre, le feu de cette rencontre, le désir brûlant de cette rencontre, Dieu va le mettre dans votre cœur en vous donnant notamment son esprit. Car la rencontre va avoir lieu, bientôt. Cette rencontre, c'est celle du retour de Jésus-Christ. En passant par ces eaux baptismales, vous allez être porté, soulevé, et ce à tout jamais, par le désir de rencontrer l'être qu'enfin nous pouvons aimer, Dieu, Jésus le Christ, qui revient bientôt. Merci pour ce beau message que vous nous donnez, Marie, en passant par ces eaux baptismales, et que ce soit pour chacun de nous la possibilité d'aimer. Amen.
Marie, quand tu as entendu le chant que j'ai chanté maintenant, c'était un peu par hasard, mais j'ai été très touchée par ce que tu as dit, c'est « Je voudrais que ce chant soit chanté à mon baptême, parce que j'ai l'impression qu'il représente ce que j'ai connu ici, ce que j'ai rencontré ici. » Alors voilà, ce chant que je vais chanter, c'est un cadeau pour toi, pour fêter cette merveilleuse décision que tu as voulu prendre aujourd'hui. Si vous saviez combien le temps n'est rien et s'en va, combien ces années ne nous éloignent pas. À votre écoute, en rire, en pleurs, mais en sourire,
sans compter nos heures et sans mentir. Vous êtes ma maison, logée dans mon cœur. Vous faites mon bonheur, mes saisons, et je suis fière de vous, de nous, de vivre ce que l'on espère, nos moments si doux, si forts et si sincères. Vous faites ma vie, vous êtes mes amis. Si vous saviez la place que chacun de vous prend, si vous saviez l'espace qui vous attend, je décrocherai la lune et toutes les étoiles, et pour chacun, chacune, mettrai les voiles pour rester à côté, à portée de bras, à portée vos cœurs et vos voix. Et je suis fière de vous, de nous, de vivre ce que l'on espère, nos moments si doux, si forts et si sincères. Vous faites ma vie, vous êtes mes amis. Mais je sais, comme ils savent qu'on lui doit tout, où qu'on soit, ce qu'on est, c'est Dieu qui l'a construit pour nous. Il crée nos liens, nos lendemains. Et je suis fière de vous, de nous, de vivre ce que l'on espère, nos moments si doux, si forts et si sincères. Vous faites ma vie, vous êtes mes amis.
D'abord, dissiper un malentendu. Tout à l'heure, il y a eu un grand silence après l'immersion. On était tous comme ça. Je pense que nos cœurs étaient remplis de joie et je vous invite à l'exprimer maintenant en faisant un grand amen pour ce que Dieu a fait dans la vie de Marie.
Amen.
Et tu as répondu à un appel. Et avant que je te donne la parole, parce que ça viendra dans quelques minutes, je voudrais juste nous rappeler comment se déroulait un appel, comment Jésus appelait. Eh bien, je lis ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5. C'est très, très court. Alors, on est frustré parce qu'on aimerait en savoir plus. On aimerait savoir tout ce qu'il a dit, mais les paroles qui nous sont relatées sont très brèves. On nous rapporte qu'un jour, il marchait au bord du lac de Galilée. Et voilà qu'il vit deux frères. Ces deux frères étaient en train de lancer un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Voici ce qu'il leur dit. « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent tout, aussitôt, et le suivirent. C'est très court, très bref. Et là où sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est que tu as répondu à un appel de Dieu dans ta vie, et la différence des autres maîtres et disciples de l'époque, où c'était l'individu qui choisissait quel maître il voulait suivre, hein. Disciple, c'est ça, suivre quel maître. À la différence de ce maître-là qu'est Jésus, c'est lui qui choisit et c'est lui qui appelle. Alors c'est le moment maintenant, Marie, de pouvoir dire quelques mots à ton église selon ce que le Seigneur va t'inspirer. Je te laisse un petit peu le micro.
Ce que je veux vous dire avant tout, c'est un grand merci d'être venus aussi nombreux à ce moment merveilleux que Dieu m'a offert aujourd'hui. Merci Seigneur pour la présence, ta présence parmi nous Seigneur. Je veux aussi dire comment le Seigneur s'est servi de vous tous, pour m'emmener vers lui. C'est-à-dire que je suis arrivée la jambe dans la telle, et c'est Marie-Paul qui m'a conduit vers vous, dans cette église. Pourquoi cette église? Voilà. Donc, je suis arrivée, et de ce fait handicapée, vous êtes venue m'entourer et me donner déjà un amour. Et ensuite, par des personnes bien définies, enfin, tout le monde, c'est une amitié sincère et véritable, que... En quelque sorte, ça m'a poussée d'aller plus loin et à aller à la recherche de la vérité qui est en moi depuis bien longtemps, depuis mon enfance, voilà, que je suis en recherche de vérité. Donc, il y a eu ce moment en Israël, donc il s'est passé quelque chose inexpliqué, que je ne pourrais pas vous décrire, qu'au Jardin des Oliviers, lorsque j'ai posé même mes pieds sur Jérusalem, au Jardin des Oliviers, et tout à coup, lorsque je suis allée au Jourdain, eh bien, je voulais déjà me faire baptiser. Ensuite, au retour, je me suis dit, eh bien, je connais pas la parole de Dieu, j'ai jamais appris à scruter les Écritures, je veux apprendre. Donc, par la bénédiction de Dieu, Laurent Judaïque est venu sur mon chemin. Et c'est lui qui est venu m'apprendre à scruter les Écritures et à découvrir la vérité. Quelque chose qui est formidable, c'est que Laurent, mes questions auxquelles où je me posais, bien souvent, avant qu'il arrive chez moi, c'était le cours déjà qu'il avait prévu. Et ça en plusieurs étapes. Donc j'étais vraiment surprise. Et... En quelque sorte, Dieu a créé une chaîne d'amour et Dieu est en vous. Et c'est comme ça, il me dit qu'il m'aime. Donc c'est chacun de vous qui est intervenu envers moi, mais c'est Jésus qui est venu et qui me dit que je suis importante à ses yeux et que ça y est, il m'aime. Et d'autant plus, s'il est en vous, il vous aime. Voilà, c'est l'amour dont je voulais vous partager et vraiment c'est une grande joie pour moi de découvrir ce baptême et de dire que Jésus est mon maître, je l'appartiens. Merci pour tout, merci.
Merci à Marie et nul doute que si vous voulez en savoir plus, eh bien allez la voir. Elle vous racontera encore plus d'expériences. Et merci en tout cas pour ces quelques mots que tu as pu nous dire.